Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est votre Énervé, le magazine de la bonne soirée qui fait coup double chaque soir puisque l'on commence dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast. Et puis ça recommence 22h minuit, mais là c'est à l'antenne comme tout le monde. Ce soir, tout pour la musique avec nos invités, auteurs, compositeurs, interprètes. Alléluia, Frédéric Lau sort son troisième album. Le second, c'était il y a 20 ans. Entre-temps, Frédéric Lau s'est imposé comme l'éminence grise de la chanson française. Daniel Darc, Stéphane Echer, Le Forestier, Chamfort, Alex Baupin lui doivent beaucoup. Aujourd'hui, Alléluia, vous prenez toute la lumière. Frédéric Lau, bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, une légende québécoise, Lewis Ferré en piano-voix ce soir, il est Hunted by Brahms, la preuve au Théâtre du Rond-Point à Paris pour un récital très incarné, une confession personnelle presque psychotique, Brahms Ferré, parce que c'était lui, parce que c'est vous, Lewis Ferré, bonsoir.
Bonsoir.
Les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault en cette veille de week-end, ça va donner quoi?
Un inédit de Courtney Barnett, le nouveau Divine Comedy, et une révélation avec la voix de Wise Blood.
Et dans le Énervé la suite, Emmanuel Macron. Une révolution française, Christophe Bourseiller.
Était-il un grand alchimiste? Était-il un démiurge, un titan, un promontoire, un pic? Enfin, je ne sais plus comment le désigner. Justement, c'est la question. Est-ce que Macron est en train de réinventer la politique française ou n'est-il qu'un roi de la com? Voilà, faut dire les choses très clairement. Donc, pour répondre à ces questions délicates, Brice Couturier, journaliste, essayiste, vous, moi, bien sûr, Jean Garrigue, historien, qui vient de sortir La République incarnée de Gambetta à Macron, hein, ne mégotons pas, Jean-Claude Kaufmann, directeur de recherche au CNRS, lui, c'est La fin de la démocratie, apogée et déclin d'une civilisation, donc lui, c'est la fin de tout, et puis Natacha Polony, directrice de Marianne.
Que du beau monde.
Bah oui, du beau linge.
Cette expression est sordide. Eh bien, le Énervé, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Du beau linge. On dirait que ça sortait d'un film des années 50.
Bah, c'est ça qui est joli.
C'est votre côté gabin?
C'est mon côté tonton flingueur.
Exactement. Plateau musique ce soir avec du beau linge, avec vous deux, Frédéric Lau et Lewis Ferré. Tous les deux auteurs, compositeurs, interprètes, réalisateurs aussi. Vous vous connaissiez l'un l'autre?
Non, on s'est jamais rencontré, non?
Non, jamais. Moi, je vous ai vu sur scène à Carole Laure. J'étais très ami avec Vic Emerson.
Vous travaillez là? Ah, Vic, oui. Je voulais justement avoir ses nouvelles. J'avais peur qu'il soit mort.
Oui, moi aussi, je ne sais pas.
Ah bon, ouais. Ben, écoutez, on va regarder sur Facebook pour savoir ce qu'il en est de ce fameux Vic.
Désolé.
Vous l'avez vu donc sur scène avec Carole Laure?
Tout à fait.
Ouais.
À quel C'était super.
Ah ben ouais.
Je ne sais plus, 25, 30 ans peut-être.
Oui, Carole a fait une dizaine d'années de musique et beaucoup de scènes.
Oui.
Trois albums et beaucoup de scènes.
C'était magnifique.
Et on a travaillé ensemble.
Et vous continuez, elle signe les lumières d'ailleurs de votre récital.
Oui, elle signe les lumières, elle produit le spectacle. C'est elle qui avait marre de m'entendre jouer les leads de Brahms juste à la maison. Elle a dit, tu vas aller sur scène.
Il va falloir que les autres en profitent aussi. C'est ce qu'on peut voir. Vous avez des gens en commun, donc à part ce fameux Vic. Parce que si je vous dis Alléluia, vous pensez à quoi ou à qui, Lewis Ferré? Si je vous dis Alléluia.
Mais Leonard Cohen, pas.
Ouais. Oui, une chanson de Leonard Cohen, ouais.
Ouais.
Vous avez travaillé avec Leonard, non?
Oui, on a travaillé ensemble. D'abord, il était un maître pour moi, jeune poète. Mmh. Et il me critiquait mes poèmes et il m'aidait à apprendre la poésie. Et après, à un moment donné, on a décidé de faire un cycle de chansons. Mmh. Et voilà, ça fait...
Une comédie musicale, vous avez co-signé un film avec lui.
Oui, un film.
Night ça Magic, fait, oui, en 85.
Oui.
Vous l'avez rencontré à l'âge de 15 ans.
Oui.
Incroyable.
Bah ouais. Comment on rencontre
Leonard? Mais il était très généreux, tu vois. Moi, il n'avait pas encore fait des disques, mais il a sorti des livres de poésie.
Ouais.
Un poète anglophone à Montréal, c'était quelque chose de rare. C'était quelque chose de jouissif d'avoir un poète qui parle de nos rues, de nos maisons, de la température, qui parle de Montréal dans notre première langue. Je parlais pas français comme je parle aujourd'hui. Et j'écrivais des poèmes et j'ai trouvé son numéro de téléphone, je ne sais pas comment, et je l'ai appelé et il m'a donné rendez-vous dans un café pour lire mes poèmes.
Et c'est comme ça que tout a commencé avec
lui. Oui. Mais d'une générosité, j'ai pensé que j'allais lui déposer les poèmes et c'est tout. Mais non, on a commandé des cafés. Il a lu les 20 poèmes avec moi qui était là en face de lui à attendre, tu vois. Alors, Mais il était formidable. J'ai dit, est-ce qu'il faut les publier? Il a dit, mais il ne faut pas être pressé.
Ah oui, c'est une réponse à double tranchant.
Peut-être vous, comme réalisateur de disques, vous avez situations pareilles.
Oui, oui.
Vous voulez encourager les gens qui viennent.
Bien sûr.
Et toujours. À la fois, ils sont peut-être...
Oh oui, j'encourage toujours les gens à s'exprimer. Après, parfois, il faut...
Vous mettez jamais de réserve, vous dites jamais...
Si, quelquefois, un peu de temps.
Non, j'essaye de trouver ce qu'il peut y avoir de bien. Il y a toujours quelque chose de bien. Après, ça peut ne pas suffire.
Ça vous est déjà arrivé de dire non à quelqu'un parce que vraiment, les chansons étaient trop mauvaises?
Oui, bien sûr, mais...
Alors, il va falloir donner le nom.
Non, mais ça, c'est difficile quand même.
Alors, comment on fait? Il y a moyen... C'est la diplomatie.
Oui,
c'est...
voilà, on dit qu'on n'a pas le temps ou qu'on n'est pas forcément la bonne personne.
Leonard Cohen, ça représente quoi pour vous, pour avoir titré cet album Alléluia? Bon, Alléluia, on s'en doute, parce que c'est quand même Alléluia, enfin le troisième album. Oui. En combien d'années de carrière, on n'ose même plus le raconter. Mais Leonard Cohen, c'est quoi pour vous?
C'est un maître.
Vous l'avez rencontré?
Non, jamais.
Vu en concert?
Oui, bien sûr. Non, ce que j'aime aussi, c'est l'histoire de la chanson. En fait, cette chanson est sur un album des années 80, qui va être refusé par Sony. Et en fait, Leonard la sort quand même. Et ensuite, 20 ans après, elle est reprise grâce aux Inrecutibles. Ils font un hommage à Cohen.
Un tribute
qui s'appelle I'm Your Fan. Et là, il y a John Kay du Velvet Underground qui reprend et qui modifie cette chanson. Et c'est cette chanson que Jeff Buckley va reprendre. Et ensuite, en fait, comme ça, elle devient un énorme tube, un petit peu en dehors de tout format ambiant, dirais-je. Et j'aime cette idée d'une chanson comme ça qui
prend son temps.
Qui prend son temps.
Bah vous aussi, vous avez pris votre temps. Troisième album, le dernier est daté d'il y a 20 ans. Comment on explique un tel silence? Par ailleurs, vous avez beaucoup travaillé, on y reviendra, mais pour revenir comme ça avec un nouvel album?
En fait, je n'ai pas arrêté de travailler. Donc,
ça, je sais, ouais.
Donc, c'était pas un silence.
Ouais.
Moi, ce que j'aime le plus sûrement, enfin, ce que je... C'est la création, donc j'aime être en studio, j'aime faire des nouvelles choses. Et donc j'ai eu énormément de chance là-dessus. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire un album avec un voisin, qui est Daniel Darc. Et d'un coup, on a fait quelque chose qui nous plaisait, mais qui était un peu fait dans notre coin. Daniel, ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait d'album non plus. Et puis là-dessus, j'ai rencontré... donc on a eu du succès avec cet album. Et là-dessus, le téléphone n'arrêtait plus de sonner avec des gens que j'aimais beaucoup, comme Stéphane Escher ou comme...
Alain Chamfort.
Oui, ou par exemple un Christophe Honoré et Alex Baupin.
Pour la musique du film...
Voilà, ils voulaient que je produise les chansons d'amour. J'allais refuser. Et puis, moi, invité comme ça à un dîner, je me suis dit quand même, je peux pas refuser de travailler avec ces gens qui ont l'air sympas.
Et puis, ça a été un énorme succès aussi au point de vue musical.
Oui, ouais. Mais vous savez bien comment c'est. Quand on fait les choses, on sait pas que ça va être un succès. On met autant j'essaye de mettre autant de cœur à faire à tout faire. Donc en fait voilà, il s'est passé beaucoup de temps, c'est passé vite. Après malgré tout, je me rendais bien compte que c'était un peu absurde de passer autant de temps pour les autres et puis si peu de temps pour moi. Donc à un moment ça s'est imposé à moi.
Ça c'est quelque chose que vous pouvez comprendre si vous avez commencé vous les Whisperer dans les années 70, vous avez signé 3 albums, puis à un moment donné, vous avez arrêté votre carrière de chanteur pendant des années, vous vous êtes consacré aux autres, hein, vous n'avez pas arrêté, il y a eu des clips, vous avez tourné des films, vous avez été acteur,
moi.
Vous avez travaillé avec et pour Carole Laure, mais vous-même, la carrière de chanteur, vous vouliez arrêter?
Oui, mais mon carrière, c'est juste pris une tournant.
Ouais.
Je voulais faire du cinéma, je voulais faire des clips.
Vous avez
je
fait.
Voulais travailler dans le théâtre, avec le théâtre musical.
C'est ce que vous avez fait?
Oui. Peut-être avec un peu de recul, je trouve que j'étais un peu trop un homme à tout faire. Et maintenant, je me consacre vraiment à la musique et à la composition. Mais et j'avais toujours cette notion que le moment de faire des disques, c'est pas la même chose ici, mais aux États-Unis, au Canada, à cette époque, il fallait être jeune. Et c'était surtout parce que les personnages qu'on incarnait, c'est vrai que moi j'avais cette impression que quand je faisais un album, dans ces 3 albums, j'incarnais un personnage. C'était pas des chansons confessionnelles comme Leon Arnaud, pas comme lui. Ils étaient, oui, confessionnels, mais dans la peau de quelqu'un d'autre,
oui,
tu vois.
Un côté cabaret, un côté théâtre même,
oui,
dans les chansons.
De théâtre, oui, absolument, de théâtre
musical. Vous étiez déjà un personnage dans les chansons, donc
dans
un personnage ne pouvait pas vieillir, en fait.
Non, il pouvait pas. Et je me suis dit, je vais prendre une petite pause entre 30 et 60 ans. et ensuite, comme votre invité, je reviendrai sur scène. En effet, j'ai pensé revenir vers 70 ans et je l'ai pas encore. Mais parce que j'ai
vous
dit...
Vous êtes revenu plus tôt que prévu, alors.
Oui, plus tôt que prévu. Quand je voyais en France, surtout les vieux qui venaient sur la scène, vos grands, grands chanteurs, là, je vais pas pouvoir les nommer parce qu'on le dit, mais il y avait des concerts de très vieux.
Oui, Charles Aznavour, par exemple.
Oui, par exemple.
Par exemple,
il y a plein.
Johnny Hallyday.
Oui.
Oui, ça n'a pas l'air d'être... J'ai tenté le tout pour le tout. Hein.
Il faut vraiment avoir une carte de résident pour vraiment comprendre ça.
Exactement. Alors, vous avez demandé à chacun des sons pour mieux faire connaissance. Ben, ça commence par de la musique, bien sûr, pour vous, Lewis Ferré. Les Supremes en 1964, c'est vous devant un jukebox, c'est
ouais,
ça
oui.
Vous vous ferez
à New York, j'étudiais le violon à Juilliard et on, pour les jeunes, les classes pour les jeunes, et on allait dans les petits bistrots, tu vois, pour manger, et puis on avait des jukebox et je découvre la musique pop.
Oui, parce que vous étiez classique.
Oui,
hein,
oui, je connaissais pas la musique pop et j'entendais cette Motown new-yorkais que j'ai adoré. J'adorais la production de ces disques-là. J'adorais la façon tellement précise comment ils étaient écrits, minimalistes. J'étais complètement séduit.
Et vous Frédéric Lou, en tant que producteur, quand vous écoutez ça, ça vous évoque quoi?
Ah bah c'est du miel, hein. C'est incroyable.
Ouais.
Je parle du bonheur.
Ouais.
Une sorte d'âge d'or aussi.
C'est un âge d'or, oui.
De
New York,
musique,
the Motown in New York, les Supremes, tout ça, c'était extraordinaire, oui.
De la télé pour vous, Frédéric Lowe, ça va nous changer. Même en termes de réalisation, c'est pas mal, hein, ce générique. Je l'avais jamais écouté, mais en vous regardant, je l'écoute maintenant, Frédéric Lowe.
Ah oui, c'est incroyable.
Les Envahisseurs.
Les Envahisseurs.
Une série.
Quand j'étais gamin, ça passait à 9h du soir, et à l'heure où je devais aller me coucher. Et donc, c'était le truc incroyable pour moi. C'était à la fois le futur, à la fois la musique de science-fiction très kitsch des années 60. Je sais pas, c'était un peu comme un vent d'interdit aussi, comme un peu le mal.
Le mal.
Oui, oui.
Et c'était quelque chose qu'on a envie d'approcher quand on est musicien après,
mais
ce
non.
Mal.
Bah, le rock'n'roll, c'est ça.
Ouais.
Rendez-vous.
Plateau live tout de suite avec vous, Lewis Ferré. Je vous laisse regagner le piano, Marion Guilbeault.
Bah, le temps de s'installer, il a fait une petite balance tout à l'heure. Il était... surpris de voir ce piano. Il pensait que ça allait être un piano un peu plus petit. Puis il me fait, ah non, il est bien finalement ce piano. Il sonne pas mal. Je crois qu'il est prêt pour un premier titre en live. Lewis Ferré dans le nouveau rendez-vous.
Je joue les livres de Brahms quand même depuis un certain temps. Je les étudie à la maison et je les traduis en anglais. Je les joue pour mes enfants, pour ma femme et occasionnellement pour les amis. Et ce qui s'est passé, ça ne s'explique pas tellement. Mais je me suis retrouvé engagé à les jouer à des dates précises ici en France et maintenant à France Inter avec vous. Et c'est maintenant. Et je ne pense pas que je peux vraiment m'échapper.
Non, je le confirme.
Alors, pour moi, comme la matière est aspirée dans un trou noir, je me laisse avaler par Brahms. Je traverse l'horizon des événements, événement, je me trouve instantanément et simultanément en train de naître à Hambourg le 7 mai 1833, en train de mourir à Vienne en 1897 après avoir écrit quelques 200 chansons et en train de vous parler sur cette, dans ce plateau en 2019 à l'âge de 186 ans. Franz Kafka me chuchote à l'oreille, « Louis, il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne prête à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu'elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni réticente, ni sourde. Qu'on l'invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C'est là l'essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. Louis, vas-y, assieds-toi, joue. Diamonds. Diamonds, you wanted diamonds, I gave you diamonds, jade and pearls. Music, you like my songs, I wrote you songs to win your love. And I waited, I tried so hard to be patient. Desperately, I watched, hoping that you would look my way. But no, you never did, not ever that way. How I needed more than simple affection, but songs and diamonds couldn't buy me love. Tu voulais que je te joue un autre? Je sais pas. Tout le spectacle que je fais est basé sur une confusion que j'entretiens entre Brahms et moi. Et à la fin du spectacle, je dévoile un peu que on a chacun notre histoire et c'est pas exactement toujours pareil. Alors voilà, je chante c'est la seule chanson de moi que je chante et le spectacle ça s'appelle Haunted by Brahms, que je suis hanté. Et j'avoue que cette chanson-là, c'est moi qui l'ai écrite en 1967. Mais quand même, quand Brahms avait 143 ans. The songs of coldness and songs of lust, songs of betrayal and songs of trust. Songs that fill you, songs that make you glad, and songs like this, songs that are sad. I'm haunted by your memory. Is this the way that you charted for me? Haunted by the way you look into my eyes, haunted by the way you took me by surprise. I never knew where you were coming from. When the wind would turn, it was always stormy weather. I had so much to learn. I'm calling out a necessity, set me free. I'm in jeopardy. I tried magic and religion, all kind of remedies. Now I'm pushing delete, wiping clean these memories. You'll never be what I want you to be.
You never do what I want you to. I gotta make up my mind to get myself on through. I've called to you 100 times, 100 times these lines. Lines filled with longing, lines filled with desire. The songs come from heaven and songs come from the fire. And I'm haunted.
Ah, super. Merci. Merci beaucoup, Léo Sfuré. Venez nous retrouver.
La prise de son était assurée par Guillaume Roux, Charles Pellabon et Léo Prangère, oui, c'est ça. Et les vidéos sont à retrouver sur franceinter.fr. Elles sont assurées par Antoine Gomez.
C'est ce que l'on entend actuellement au Théâtre du Rond-Point dans ce spectacle Haunted by Brahms. Le premier rapport avec Brahms, vous qui avez eu une formation de musicien classique, ça commence quand?
Oh, ça commence très très jeune, 5-6 ans, j'écoutais la musique classique chez nous, mes parents aimaient beaucoup la musique classique, et très vite j'ai senti que Brahms, je l'aimais beaucoup, j'ai commencé à étudier le violon à 6 ans, je rêvais de pouvoir jouer le concerto de Brahms pour violon, le double concerto pour violoncelle et violon, les 3 sonates, donc c'est peut-être un de mon compositeur favori pendant longtemps. Et mais je connaissais pas les leads. Il y avait comme un quelque chose de entre moi et les leads. Et je pense que c'était parce que contrairement à la musique orchestre symphonique ou les symphonies ou qui étaient faits pour les grands virtuoses, les leads étaient faits pour tout le monde.
Oui, parce que c'est des leads qu'il a composés dès l'âge, enfin très jeune, hein, à l'âge de, enfin à l'adolescence,
18, oui.
À 18 ans, jusqu'à oui. La fin de sa vie d'ailleurs.
Jusqu'à la fin de sa vie,
il faisait des chansons, on va dire. Populaire, vraiment travailler comme des chansons.
Très, et faites pour être jouées par tout le monde chez eux. Et même quand ils étaient trop difficiles, les gens, les amis lui écrivaient une lettre et se plaignaient que la partition était trop difficile à jouer. Et il y avait un parallèle entre ce que nous avons vécu dans la musique populaire, c'est-à-dire quand j'ai commencé, peut-être quand toi tu as commencé aussi.
Frédéric Lowe,
ouais. Il fallait sortir un disque tous les 2 ans. C'était à peu près le rythme que les compagnies de disques voulaient.
Tout à fait.
Et, mais Brahms, tous les 2 ans, sortait des feuilles avec 5 à 8 chansons, avec cette rigueur que il laissait pas passer plus que 2 ans.
Ah oui, donc déjà à l'époque,
il était presque dans une production
d'album presque, ouais.
Ah oui, absolument.
Et vous, vos premières compositions?
Et puis il avait un succès fou.
Et vous, vos premières compositions, parce que Brahms, donc, c'est à l'âge de 18 ans, et vous, vos premières compositions, à partir de quel âge? De chansons ou même?
J'ai essayé de faire des chansons, oui, à partir de 18 ans. En écoutant ces jukebox à New York et aussi en découvrant la musique théâtrale, comme la musique dans les comédies musicales. Là, j'ai commencé et en écoutant aussi, Leonard commençait à faire des chansons, Bob Dylan faisait des chansons. Tout ça m'a donné goût. J'ai commencé à aimer West Side Story avec les chansons de Leonard Bernstein. J'ai commencé à aimer Kurt Vile beaucoup avec l'opéra de Katsu, Porky and Bess de Gershwin, plein de chansons magnifiques. Et donc j'ai commencé à écrire des chansons.
Et à tourner le dos au monde du classique.
Oui.
Vous avez une formation classique, Frédéric Lowe?
Oui, j'ai une formation classique. J'ai fait un peu de classique enfant. Après, j'ai été autodidacte longtemps. Et puis après, j'ai repris des études.
Des études de quoi? De piano? De violon?
D'harmonie, ouais. De composition. Oui.
Alors, dans le récital que j'ai pu voir mardi prochain, c'était la première, il y a le récital Brahms. Mais à l'intérieur, il y a d'autres titres que vous intégrez. On entend les Beatles, on entend vous à la fin. Et aussi Elton John. Quel rapport entre ces chansons-là et l'univers de Brahms? À quel niveau ça se joue pour vous?
Mais c'était des maîtres de chansons populaires. des dernières 50 années. Je veux dire, tout le monde connaît ces chansons, même s'ils ne veulent pas. This is for you, this is your song. It's a little bit funny, this feeling inside. Elton
tout
John.
De suite, Elton John, ouais.
Ah, mais tout le monde le connaît, tu ne peux pas l'éviter. Et je voulais donner cette, je voulais que les gens sentent le fait que Brahms était un chanteur populaire. Il était, aujourd'hui, on dirait, il écrit des pop songs, je sais pas qu'est-ce qu'on dirait. Il écrivait des chansons qui étaient accessibles et, sans faire de concessions. Il était juste le il faisait gaffe de ne pas le rendre virtuose. C'est la seule chose.
Et vous-même, vous avez voulu être un chanteur populaire?
Ah oui, quand j'ai commencé, alors là, je voulais être un chanteur populaire, mais on rêve tous. J'ai pas la sagesse de juste faire comme ça, mais j'ai commencé à faire des chansons. Je voulais savoir au plus vite quand est-ce que j'allais faire une tournée mondiale, tu vois. C'est comme quand j'ai donné mes poèmes à Léonard à 16 ans et j'ai dit, est-ce qu'il faut le publier tout de suite? Et où? À New York ou à Londres, you know? Mais, et avec le cinéma aussi. Je sais pas, c'est une maladie que j'ai j'ai besoin de cette moteur de, mais j'écris pour un, je sais pas, on veut un contact avec la culture ambiante. Pour moi, ça me suffit de penser, ah, je vais écrire ça et tout le monde va aimer, sans que je fasse une concession sur le matériel.
Frédéric Lau, vous avez voulu être un chanteur populaire?
Non.
Dès le départ.
Hein. Non, je sais pas. Enfin, je dis généralement, enfin, je sais pas. J'avais l'impression qu'on pouvait être populaire quand on était anglo-saxon, mais en France, j'avais pas l'impression que je pouvais.
Vous aviez pas de modèle.
Il y avait plein de chanteurs populaires. Vous avez même travaillé avec Alain Chamfort, par exemple.
Oui, non, mais vous m'avez posé la question quand j'ai commencé.
Oui.
Quand j'ai commencé, moi, j'aimais bien des choses qui n'étaient pas populaires.
Vous aimiez quoi?
Bah, je sais pas. J'aimais par exemple le Velvet Underground. C'était pas des choses populaires. J'aimais les artistes un peu, je sais pas, même quand on prend David Bowie, avant qu'il soit vraiment populaire, il a 20 ans de carrière. J'aimais bien ce genre de profil. J'aimais bien les gens qui faisaient, ou comme David Byrne avec les Talking Heads, j'aimais bien les gens qui avaient un univers un petit peu particulier et que petit à petit, le public arrivait à eux. C'est-à-dire que c'était plus un chemin qu'une envie de...
De séduire à tout prix.
De tête de gondole, ouais.
Lewis Ferré, au départ, vous étiez musicien classique. À partir de quel moment vous avez découvert votre voix, une voix très particulière? On a pu l'entendre encore tout à l'heure.
Assez vite. J'étudiais pas la voix.
Non, je sais, ouais.
Donc, il s'est développé. Moi, je trouve pas que j'ai une voix. Je fais pas ce que je veux. Avec ma voix.
Vous avez des limites?
Mais oui, et encore plus aujourd'hui que quand j'avais 25 ans ou 20 ans. Donc, quand j'écris des chansons aujourd'hui que je veux chanter, je fais plus simple. Je sais pas, des nouvelles chansons que je fais sont moins difficiles pour moi de chanter.
Et quand vous écrivez pour les autres?
J'écris pas tellement pour les autres.
Carole Laure?
Pas maintenant, non. Ça fait longtemps qu'elle fait du cinéma. Elle est sur son cinquième film. Donc, elle fait pas de chant maintenant ou de danse. Elle fait du cinéma.
Ouais, elle dansait, notamment. Moi, j'avais vu dans des clips, elle dansait le répertoire d'Edouard Locke.
Oui, mais oui. On l'a pris pour... J'avais fait un disque pour Carole. Elle voulait chanter de country and western. Ça, j'ai dit, OK, mais on fait du Western Shadows. On fait une ombre de les chansons country parce que j'allais pas, elle n'était pas une chanteur country et moi j'allais pas.
Ah ben, c'était pas Dolly Parton, ça je peux vous l'assurer.
Et moi j'étais pas un arrangeur de Motown, de Nashville ou de, je sais pas où ils faisaient des musiques country. Je dis, on va faire Western Shadows. Et donc, pour le premier extrait, Save the Last Dance for Me, on a pris Edward Locke.
Ouais, comme chorégraphe. Comme,
avec, énorme avec chorégraphe, Lise, très virtuose. Le Cavalier qui dansait avec Caron. Mais j'ai aussi fait une autre avec Wim Wendekebus. Encore la scène bruxelloise.
La scène flamande bruxelloise. Flamand. Mais qui est à peu près la même dynamique qu'Edouard Locke.
Oui. Exactement.
Au Canada. Ouais.
Je pense que Montréal et Bruxelles ont été et sont toujours des pôles mondiaux de la danse contemporaine.
On se trébouille pas mal aussi en France, vous savez. Oui. Hunted by Brahms, c'est presque Brahms Shadows. Avec vous, Lewis Furet, c'est sur le label Atma Classique parce que c'est aussi un disque. Et le spectacle est au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 20 avril. Vous restez avec nous. Tout de suite, on va écouter un des duos de votre album, Frédéric Lau. C'est avec le Suisse Stéphane Escher. Et ça commence par un dialogue du film Désordre d'Olivier Assayas qu'on entend dans le clip de cet obscur objet du désir.
Ça fait un moment.
T'as changé.
Oui, je sais. J'ai changé autant que j'ai pu.
Ça me fait plaisir de te voir.
J'ai failli pas venir. En fait, j'avais décidé de pas venir. Je sais pas.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Sur France Inter.
C'est l'histoire d'une petite qui va me voir et me sourit. Sourire, comment dire, était irrésistible. Ensorcelé, j'ai cru au rêve, j'ai cru en la magie. J'ai même cru comme un con à l'amour infini.
Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir.
Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir. T'es tombé dans mes bras un bel après-midi d'octobre.
Le 27 si ma mémoire est bonne.
T'es reparti un matin de juin.
Un triste 14, il pleuvait, je crois bien. Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir.
Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir.
Quand on est amoureux, on emmerde la terre entière.
Quand cet amour se meurt, la terre entière vous emmerde.
Assis là sur mon lit, chantant ma peine.
Où tu fus magnifiquement nu près de moi tant de fois, mère.
Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir. Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir.
Pour vivre aujourd'hui, il me faut oublier le meilleur d'hier.
Pour vivre aujourd'hui, il me faut cracher tous ces baisers que j'ai pleines les lèvres. Cet obscur objet du désir. Toujours pour moi, tu resteras cet obscur objet du désir. Toujours pour moi, tu resteras.
Cet obscur objet du désir, c'est vous Frédéric Lau et Stéphane Escher en duo, un extrait de ce troisième album Alléluia. Il y a d'autres duos d'ailleurs avec Elie Medeiros, avec Alex Baupin, avec Robert Wyatt. Mais sur la couverture, vous êtes tout seul et en gros plan. Alors pour un homme de l'ombre qui s'est caché pendant des années, là vous y allez franco quoi. Vous prenez toute la pochette.
Écoutez,
vous assumez à fond.
Je ne sais pas s'il assume vraiment là. Je le sens presque en train de rougir à côté de moi.
Non, mais non, c'est pas ça. Un moment, quand c'est son disque, c'est son disque.
Ouais, il faut y aller quoi.
Oui, oui.
en même temps, c'est son disque, mais vous êtes vraiment très très accompagné pour ce disque-là. Par exemple, cette chanson qu'on vient d'écouter de Stéphane Echer, elle a une histoire, elle n'est pas là par hasard. Est-ce qu'elle aurait dû être sur un album de Stéphane Echer ou est-ce que c'est une chanson qui était pour vous?
J'ai l'impression que la réponse est dans la question.
Je ne sais pas, je vais savoir. Non,
en fait, cette chanson, c'est un peu étrange. J'ai commencé à l'écrire quand j'avais une vingtaine d'années. En fait, donc elle a eu plusieurs comme ça.
Ah, c'est votre Alléluia à vous alors, comme est Leonard Cohen. La chanson a pris le temps alors.
Exactement. Et en fait, quand j'ai réalisé l'album de Stéphane Echer, Eldorado, il y a à peu près une dizaine d'années, Stéphane, un peu par hasard, est tombé sur cette chanson et voulait absolument la chanter. Et j'ai refusé, ça le rendait dingue. Et donc, quand j'ai voulu finaliser cet album, je suis venu le voir à une exposition d'un artiste allemand et je lui ai demandé s'il voulait chanter. Et avant que je termine la phrase, il m'a dit « c'est oui ». Je lui ai dit « oui, mais attends de savoir ce que je t'ai proposé ». Il a eu deviné que ça allait être ça.
Vous vous étiez réservé cette chanson, même si elle avait été écrite des années auparavant.
Oui, c'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer. Cette chanson, je ne pouvais pas la faire chanter par quelqu'un d'autre. Et je préférais la garder pour moi, même si je la jouais seul, plutôt que de la mettre sur un disque de Stéphane. Et ça n'avait rien à voir avec lui, c'était trop personnel en fait.
Alors, Frédéric Loh, je vais vous présenter qui c'est Lewis Furet. Pour écouter qui est Frédéric Loh, alors bien sûr, on vient de l'entendre, mais Frédéric Loh, c'est aussi ça.
Je me souviens, je me rappelle, ces temps, ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence.
C'est un extrait de l'album Crève-Cœur en 2004 de Daniel Darc. Je me souviens, je me rappelle, titre de la chanson. Et là, vous êtes compositeur, arrangeur et réalisateur de l'album.
Oui.
Une date, véritablement, avec Crève-Cœur en 2004, pour vous, dans votre parcours.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous avez appris à son contact? Parce que lui, on voit le résultat, on sait qu'il a accouché d'un disque magnifique. Mais vous, qu'est-ce que vous avez appris à son contact?
Le truc qui était étrange, c'est que j'ai fait cet album dans l'ombre et c'est en étant le plus dans l'ombre que je suis devenu le plus dans la lumière. Donc peut-être que c'est ce que j'ai appris, un petit peu de profondeur de chant.
Il y a un titre d'ailleurs sur cet album qui s'appelle Égaré dans la nuit, qui est signé Daniel Darc.
Il vient d'où
ce titre?
En fait, Daniel comprenait pas que je veuille pas faire un disque tout de suite après Crève-Cœur. Et donc, on avait commencé ce morceau ensemble et il voulait que je chante ce texte.
Un autre extrait, un duo, on ne vous entend pas, mais derrière c'est vous.
La nuit tombe et je m'inquiète, quelqu'un t'a-t-il aperçu? Où es-tu? Vais-je devoir pour te trouver organiser une battue? Où es-tu?
Mais mon amour, que dis-tu? Je ne t'ai pas quitté d'un pas, je suis là. Je suis toujours dans ta poche, toujours pendu à ton bras, je suis là.
Un album de 2015, un duo Alain Chamfort avec Charlotte Rampling. Où es-tu? Et vous, Frédéric Loh, arrangement, réalisation et l'écriture de la musique de ce titre.
Oui, tout à fait.
Vous avez un souvenir de cet enregistrement-là précis?
Ah oui, c'était incroyable de rencontrer Charlotte Rampling.
C'était plus Charlotte Rampling qu'Alain Chamfort,
tu parles.
Ouais. Non, mais je veux dire...
Surtout qu'elle avait déjà enregistré des albums. Hein.
Moi, j'étais ravi de travailler avec Alain et c'était vraiment un super moment. Mais quand on parle de cette chanson, je vois très bien Charlotte arriver et je la dirige. Et à un moment, elle me dit comme ça, « Tu sais Frédéric, tu peux faire de moi ce que tu veux. »
Est-ce que par exemple, il y a une touche Frédéric Loh? Ça, on a dû vous la poser cette question, donc vous devez avoir une réponse. C'est quoi la touche Frédéric Loh?
Moi, je n'ai pas de réponse à ça.
Je vous la donne.
Depuis le temps, non. Non, qu'est-ce qui... Vous connaissez votre son, qu'est-ce qui le caractérise?
Honnêtement, je ne sais pas. J'essaie que ce soit à chaque fois un peu inédit, mais j'ai l'impression que les autres ont l'impression que c'est toujours pareil.
Pas toujours pareil, mais en tout cas, une familiarité.
Oui, ben peut-être que cette familiarité, elle vient des gens que j'aime et de mon point de vue, en fait, de mon goût.
Vous avez l'impression qu'il y a une famille de musiciens avec lesquels vous travaillez? Ça fait une famille ou c'est quelque chose de très hétérogène?
Oui, ça a été fantasmé et c'est devenu une famille. Oui, j'ai vraiment cette impression. Et c'est pour cette raison que j'ai invité tous ces gens sur mon album. C'est-à-dire qu'en fait...
Élie Médéros, par exemple, c'est l'époque quoi? Élie et Jacquenot?
Ah ben bien sûr, c'est les Stinky Toys, c'est Élie. Et puis c'est même le début de sa carrière solo. C'est Toi, Toi, Mon Toi, c'était quand même une muse incroyable. C'était notre... oui, c'était Élie et Jacquenot, c'était Dutronc et Hardy pour nous.
Vous connaissiez Élie et Jacquenot, Lewis Furet?
Non.
Ah ben non, mais ça c'est vraiment la culture française, la pop française des 80. Années 80. Vous connaissez un petit peu le répertoire français? Qui vous écoutez comme chanteur français? Lewis Ferré, vous?
Aujourd'hui?
Oui. Si vous me dites Charles Aznavour, vous êtes mort.
Non, non.
Pénel.
En effet, j'écoute ce que mon fils me conseille d'écouter.
Ouais.
C'est-à-dire
du rap?
Moi, j'ai beaucoup aimé la naissance du rap français. J'ai trouvé ça jouissif et de voir tout d'un coup la langue servir à autre, pas avoir le dictat d'employer des mots qui sont dans le dictionnaire et avoir cette virtuosité avec la langue. Donc ça, j'ai écouté pas mal de rap français.
Pas du tout votre cam, hein, Frédéric Lau?
Non, c'est vrai.
C'est toutes les limites. Il faut en avoir, et c'est pas mal. Un autre extrait, ce sera le dernier, pour montrer qui est aussi Frédéric Lau.
Est-ce ta jolie paire de fesses, la peur de la solitude, le hasard et la paresse, ou une mauvaise habitude? Je ne manque pas.
Pourquoi les terres?
De bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelles raisons te les donner.
De bonnes raisons pour m'aimer. Pourquoi me les donner?
De bonnes raisons avec Louis Garrel, un extrait de Les chansons d'amour signé Alex Baupin pour le film de Christophe Honoré. Mais qui fait les arrangements et qui réalise le disque? C'est encore vous, Frédéric Lau. Ça donne un petit peu la dimension de ce que vous pouvez représenter aujourd'hui dans la chanson française. Musique de film, vous vous y êtes essayé vous-même?
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait l'annonce de Julie Lopez-Curval. J'ai fait Diastème juillet-août. Voilà.
Un exercice que vous aimez bien?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est super, bien sûr.
Moi, je me demandais par rapport à Alex Baupin, qu'est-ce que vous apprenez au contexte d'Alex? Parce qu'il y a quand même deux albums avec lui. Il signe quatre titres sur votre album Alléluia. Il est en duo avec vous. Qu'est-ce que vous apprenez de différent, par exemple, par rapport à un Daniel Darc avec Alex Baupin?
Je sais pas vous répondre. C'est différent et à la fois la même chose. J'aime beaucoup Alex parce que peut-être qu'il est plus, il a un côté plus rive gauche que nous, peut-être. Il est peut-être plus friand de chansons françaises que moi. Mais non, c'est pareil. Ce que j'aime chez lui, c'est à la fois le goût de la légèreté et en même temps de la profondeur, d'avoir dans un format très court de raconter des choses dures. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. C'est ce qu'on a fait aussi avec Daniel. C'est vraiment Alex qui est venu à nous, Alex et Christophe Honoré, parce qu'ils adoraient les chansons, les Crève-Cœur de Darc. Donc en fait, je pense que c'est plus Alex qui est venu à moi.
Un univers dur et trouble quelquefois pour vous, Frédéric Lau, mais pas que. Lonely List, une chanson d'Alizé sur l'album Psychédéliste. Composition, réalisation et instrumentiste des titres, Jamais Plus et Lonely List. Alors, je vais poser la même question que Marion Guilbault. Tiens, je vais pas me fatiguer. Je vais vous reprendre la question. Qu'est-ce que vous avez appris auprès d'Alizé, qui était notre Lolita de la chanson française?
Ce qui est chouette dans un cas comme ça, c'est de voir une jeune femme de 20 ans avoir envie de travailler avec moi et Daniel à l'époque. Donc, d'amener justement un peu de
elle avait été créée par Mylène Farmer et elle se tourne pour l'autre album du côté de vous et d'Adnel.
Voilà, donc ça c'est intéressant de voir des gens plus jeunes qui veulent travailler avec nous. Donc je sais pas, moi je me pose pas la question de savoir qu'est-ce que j'apprends. On est juste en train de s'exprimer, d'essayer de faire à la fois c'est la pop, c'est-à-dire faire quelque chose de profond et de léger à la fois. C'est comme pour moi c'est comme la Motown, c'est comme Where Did All Of Go, C'est à la fois, c'est on peut le fredonner sous sa douche et puis en même temps, on peut avoir le cœur brisé, l'écouter en pleurant. C'est ce qui me plaît dans la pop musique.
Moi aussi, moi je suis complètement d'accord. C'est ça l'attrait de la pop.
Bien sûr.
Ouais.
Vous annoncez un album hommage à Daniel Dark, la Taxi Girl, ça va se présenter comment, cet album hommage? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Parce qu'il y a déjà eu des hommages à Daniel Dark.
Il n'y a pas eu d'album hommage.
Non, pas d'album, concerts,
non.
Émissions.
D'habitude, ce que je n'aime pas dans les albums hommages, c'est que c'est un petit peu hétéroclite, que c'est justement pas si contrôlé. Là, c'est un petit peu...
C'est très contrôlé.
Non, en fait,
là, ça, vous allez veiller à la mémoire de Daniel Dark.
C'est-à-dire que là, je vais le produire, moi. C'est rare qu'un tribute, ce soit une seule personne qui le produise.
Ouais.
Et ensuite, on est Franck Verjade, Guillaume Depagne, et on choisit des amis proches qui sont justement dans cette famille.
Alors, quelle peut être cette famille ici? Le père, ça serait qui dans
c'est
la famille?
C'est qui la galaxie, Daniel Dark?
L'oncle, plutôt, ça va être Étienne Dao.
Ouais, bien sûr, d'accord. La petite sœur?
La petite sœur, je sais pas, ça peut être la Fidélie.
Calypso Valois, bien sûr, c'est pas mal, d'accord.
Voilà.
Le grand-père.
On voit un peu une idée du casting.
La grand-mère, ce sera Jane Birkin.
Ah, c'est super. Bon, mais c'est pas mal, c'est très
donc
bien.
Donc voilà, ça c'est un des projets de Frédéric Lowe. Il y a aussi la sortie d'un album avec Bill Pritchard sous le nom de Pritchard and Lowe. Et Frédéric Lowe sera en concert le 27 juin au Café de la Danse à Paris.
Vous restez avec nous tous les deux, Frédéric Lowe et Louis Furet, parce que tout de suite, c'est les nouveautés nouvelles sur le plan musical, bien sûr, et non pas de l'information de Marion Guilbeault.
Rendez-vous. Quel genre de musique joue-t-on en général chez vous?
Oh, on n'est pas difficile. Ici, on aime tous les genres. Country, western.
Vous êtes des policiers?
Non, madame. Des musiciens.
On va vous donner des pistes pour des choses à entendre. Il n'y a pas que votre fils qui va vous donner des pistes.
Très
bien. Furet. Marion Guilbeault.
Samedi, c'est le Disquaire Day dans le monde entier. C'est une manifestation qui revalorise depuis maintenant quelques années l'activité de disquaire indépendant, son rôle de conseil. Ça a aussi relancé le format vinyle. C'est l'occasion ainsi de retrouver des albums jusque-là disponibles uniquement en digital ou en CD ou alors complètement épuisés. Mais il y a certains artistes qui vont plus loin en enregistrant un disque spécialement pour l'événement. Et c'est le cas de l'Australienne Courtney Barnett, chanteuse, guitariste, qui marche dans les pas de PJ Harvey, première période. C'est vraiment une nouvelle étoile du rock indé. Alors elle a une voix qui joue sur le brut et le tendre, les guitares sont rêches, musclées, les paroles frontales, c'est une des rares musiciennes à jouer du rock en évitant tous les faux pas du genre. La chanson s'intitule « Everybody Here Hates You », c'est en référence à la chanson de Jeff Buckley « Everybody Here Wants You », une chanson qu'elle a enregistrée entre deux concerts de sa tournée mondiale. D'ailleurs, elle va être en France pour quelques dates, quelques concerts, faut absolument pas la rater. Au festival Tinal, c'est à Nîmes le 31 mai, à Paris le 2 juin, We Love Green, Courtney Barnett.
I feel putrid, I'm getting used to it these days. You said it's only in your head. They're probably thinking the same thing.
Courtney Barnett, une guitariste à suivre. C'est un titre donc qui va être disponible en France, pas pour le Disquaire Day, pour le Record Store, c'est-à-dire partout dans le monde, sauf en France. En France, il faudra attendre une semaine de plus, c'est comme ça. Et Courtney Barnett est aussi une des musiciennes évoquées par Sophie Rosemont dans son excellent livre Girls Rock, c'est chez Flammarion. Vous êtes platine vinyle, Frédéric Lowe?
Tout à fait.
Et vous, Lewis Ferreff, vous avez racheté une platine pour écouter des vinyles?
Pas du tout.
Pas du tout.
Vous êtes quoi? Complètement dématérialisé? Vous écoutez la musique sur quoi?
Sur mon ordinateur, mais...
Oh!
Non, non, mais je l'achète.
L'Asie.
Il manquerait plus que ça!
Ouais, et parfois, on me donne un CD et je le rentre dans mon ordinateur.
Dans l'ordinateur.
Et comme ça, je l'ai avec moi. Ouais.
Et ça ne vous choque pas le son de l'ordinateur?
Non, ce n'est pas le son de l'ordinateur. J'ai des headphones et j'ai mes haut-parleurs. Je l'écoute... très bien.
Mais il n'y a pas que des puristes comme vous, Marion Guilbeault.
D'accord, ok. Donc le disque
qui n'emploie pas de... Dans vos productions, vous employez des choses...
Oui, bien sûr.
Ouais.
Moi, j'aime bien tous les supports, mais c'est vrai que mettre un vinyle, je trouve que c'est toujours...
Jouissif de mettre...
De retrouver ce son.
C'est votre côté, le Velvet Underground et c'est tout ça. Ça qui vous...
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Bon, allez, Disquerdé, allez claquer votre argent au Disquerdé, c'est samedi, c'est partout en France, il y a plein de bons disquaires, il faut les soutenir. La suite, elle se passe en Irlande avec un chanteur qui représente la quintessence de la pop britannique, mélodie qui reste, voix de crooner flegmatique, c'est bien entendu celle de Neil Annon, le chanteur de Divine Comedy. Il est de retour avec un titre très sautillant, premier ambassadeur d'un album presque... Concept, Office Politics, c'est un disque qui rassemble 16 titres qui tournent autour de personnages irrévérencieux et imaginaires pour la bonne raison qu'ils sont pour la plupart des machines. Alors est-ce que c'est un virage électro pour The Divine Comedy ? Pas vraiment, je vous cite Neil Annon lui-même. Alors oui, il y a des synthés, il y a des chansons à propos des synthés, mais don't panic, il y a aussi des guitares, des orchestres, des accordéons et des chansons sur l'amour et sur la cupidité. On est rassuré.
I jump the queue, cause I'm better than you. Red lights. Red lights are all I see. Red lights. Red lights don't apply to me. Red lights. Red lights are just for you. Red lights. You stop if you want to.
Vraiment sa version, c'est ça, je préfère vraiment quand il jouait plus clavecin, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, la première période. Ouais, ouais. La première période, mais l'album est plein de surprises, il est vraiment à découvrir. Il sort le 7 juin chez Piast, on a encore un peu de temps. Et fin de ses nouveautés nouvelles avec le projet Wise Blood. C'est le projet d'une sirène, il n'y a pas d'autre mot. Elle s'appelle Natalie Maring, elle est américaine et elle vient de publier un des plus beaux disques de la saison. Ça s'appelle Titanic Rising, c'est un disque aquatique. Normal, quand on a une voix de sirène, elle a une voix vraiment nacrée, très envoûtante, ça bouleverse tous nos repères. C'est déjà son quatrième album et c'est une plongée dans ses années d'ado rebelle. Elle a été élevée dans une famille très, très religieuse de Pennsylvanie et pour y échapper et pour se révéler, elle a choisi la musique, la Californie. Alors au fil des disques, sa folk un peu gothique s'est transformée en pop symphonique, raffinée. Elle surfe parfois un poil sur la crête du kitsch, mais c'est tellement tenu, c'est tellement sincère, captivant qu'on la suivra à la nage n'importe où.
Nothing in it for me, except a heart that's lazy. Running for my own life now, I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop. me in if I break and be quiet if I shatter. Get tired of looking.
Andromeda signé Wasblood, un extrait de son nouvel album Titanic Rising. La programmation est signée Marion Guilbeault. Le NRV, première partie, c'est fini. On se retrouve dans 15 minutes après le journal avec ça.
Je crois en nous.
Emmanuel Macron, une révolution française. Le rendez-vous est pris. Alors à tout de suite.